Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, Latraverse, Dumont.
Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Lendemain d'élection et en fait personne peut être triomphant aujourd'hui, ce qui est assez rare. Justin Trudeau qui remporte l'élection mais demeure minoritaire. Pour qui Emmanuel, c'est le plus dur lendemain de veille aujourd'hui?
Je pense que le plus dur lendemain de veille, ça demeure pour Erin O'Toole là. Ouais. Il faut pas se leurrer, pas parce qu'il avait beaucoup de chances de gagner, c'est l'ironie. Mais parce qu'il a fait croire à ses troupes qu'il pouvait gagner. Et donc, ce mirage-là là, a suffi à faire penser aux conservateurs que c'était bon, c'était dans la poche, tu sais. Et donc, il va y avoir des lendemains difficiles là, pour M. O'Toole. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il devrait quitter. Okay? Si tu changes de chef à chaque élection, tu n'as aucune chance qu'il devienne meilleur, OK? Non, Mario, il en a fait plein de campagnes électorales. C'est pas... Et le problème, moi, je pense, c'est que les conservateurs, ils doivent revoir comment et où ils font campagne. Ils peuvent plus miser sur leur base conservatrice, puis les comtés ruraux, puis 3-4 banlieues, parce que ce qui est la banlieue ne cesse de grandir autour des grandes villes au Canada. Alors, des comtés qui gagnaient facilement il y a 15 ans, ils sont plus capables de les gagner maintenant.
Mais est-ce que c'est pas...
La démographie a changé.
C'est ça, mais quand tu parles de démographie, est-ce que c'est pas parce que la mentalité de banlieue, c'est la mentalité de ville qui s'est exportée en banlieue, là. C'est la mentalité multiculturaliste, beaucoup plus à gauche. Et là, c'est libéral, ce qui fait que la tache rouge libérale autour des villes s'agrandit, là, et que c'est de plus en plus difficile à prendre pour tout autre parti que les libéraux, en fait. La NPD qui peut être... Mais même là, à Toronto, la NPD, c'est plus rien, là.
Ben non, mais c'est... Il y a deux phénomènes... J'ai deux choses à dire là-dessus. De un... Moi, il y a d'autres choses que le multiculturalisme dans la vie, là. Harper a réussi, en 2011, à balayer les banlieues multiethniques de Toronto sans faire des promesses de programmes d'entrepreneuriat sikh, noir, chinois et je sais pas quoi, là. Mais en allant à la rencontre de ces communautés-là, puis en cherchant c'était quoi leurs préoccupations, puis en trouvant c'était quoi les préoccupations qui étaient les mêmes.
Mais ça, c'est Jason Kenney qui avait fait ça.
Ben oui, mais alors, ça se fait, mais ça se fait pas assis dans un bureau en faisant des sondages, là, tu sais. Il y a un travail de terrain à faire. La réalité, c'est que ce sont les tiers partis qui ont décidé du gouvernement hier. Maxime Bernier, écoute, il y a plein de sondeurs là, qui vont se mettre là-dedans dans les prochaines semaines, puis il va falloir vraiment avoir les résultats beaucoup plus détaillés là, que ce qu'on a à date de l'élection, mais à première vue, il a fait perdre au moins 5 comtés aux conservateurs. Il les a empêchés d'en gagner entre 7 et 12, là, à peu près. Ça, c'est une chose. Donc, ils se sont fait manger à droite. Puis le vote des Verts, là, les Verts sont passés de 6,8% à 2. C'est des millions d'électeurs qui sont allés où?
Mais comment le vote des Verts est allé au
libéraux?
Ouais. Comment est allé aux libéraux plutôt qu'au NPD? C'est absolument pas logique.
Ben parce que l'NPD avait un plan. C'est pas pour rien que M. Trudeau a passé 3 semaines de la campagne à dire que M. Singh avait un mauvais plan vert, que son plan vert avait pas eu des bonnes notes, que son plan vert était pas chiffré. Je veux dire, il a attaqué le plan vert de Jack Meeting.
Et il semble que c'était vrai en plus.
Et comme il semble que c'était vrai, ben le vote des Verts est allé chez les libéraux, donc c'est à Anami Paul que Justin Trudeau doit sa victoire, là. C'est l'ironie de cette affaire-là, là.
D'ailleurs, sur la durée du gouvernement, Erin O'Toole, tantôt, en point de presse, disait que là, Justin Trudeau avait dit 18 mois.
Ouais, est-ce
que
toi, Mario? Il se réfère au débat, là.
C'est ça, parce qu'on sait qu'on avait parlé de ça. Le gouvernement minoritaire, c'est souvent la durée de vie. Est-ce que tu vois ça, Mario, c'est un retour en élection rapide ou l'inverse, qui finalement, non. Ce sera comme ça pour longtemps?
Moi, je pense que c'est un mandat qui est presque majoritaire dans sa durée, dans son fonctionnement. C'est que l'alliance là entre les libéraux et les néo-démocrates, elle sera jamais formelle. Là. Les néo-démocrates, faut qu'ils gardent leur autonomie, faut qu'ils montrent qu'ils aiment pas les libéraux, puis ils vont faire des barreaux d'honneur pour dire oh là on va peut-être voter non à ce budget-là, finalement ils vont voter oui, mais Dans les faits, à mon avis, M. Trudeau va gouverner un méchant bon bout de temps, sans réel problème, sans être réellement inquiété, avec l'appui du NPD. Et avec une opposition devant lui, conservatrice, très faible, parce que embourbée dans des problèmes internes. Il va avoir ses problèmes, mais c'est Emmanuel, c'est Paul Wells qui résume ça aujourd'hui dans son titre de chronique, qui dit « Les deux ont des problèmes, là. Erin O'Toole et Justin Trudeau, les deux ont des problèmes de lendemain d'élection. » Mais tu sais, Justin Trudeau, c'est des problèmes de gestion du pouvoir, là. Pas mal moins compliqué, pas mal moins dégueu que les problèmes qu'il y a. Pas mal moins dégueu que les problèmes qu'il y a dans Erin O'Toole, là. Des chicanes internes de parti, puis des guerres intestines, puis...
C'est ça, c'est que d'un côté, t'as de la chicane, puis de l'autre, t'as une guerre qui se prépare. Je pense que, mais moi, je me méfie toujours des prédictions, pas parce que je veux donner tort à Mario. Je nous rappellerai collectivement qu'au lendemain de l'élection de 2019, on disait que M. Trudeau en était bon pour 4 ans parce que tous les partis étaient affaiblis, puis blablabla, puis finalement, il y avait une fenêtre. M. Trudeau, il va y aller quand il va y aller, puis ça dépend de deux choses. Moi, je pense qu'il ne fait pas face à un putsch ou une guerre intestine, mais... l'establishment libéral, le vrai, là, pas sa petite clique autour de lui au bureau du premier ministre, là, est très en colère contre lui. D'avoir complètement abandonné toute responsabilité fiscale, de gouverner ce gouvernement-là n'importe comment. Et là, maintenant qu'il sort affaibli de cet exercice de vanité qui était cette élection, il y a bien des ministres puis bien des députés qui vont avoir moins peur de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'on s'entend qu'un ministre, puis je le nomme pas parce que c'est lui, parce que je pense qu'il va mener la charge, là, mais juste parce que les Québécois puis nos auditeurs le connaissent. Monsieur Duclos, il doit plus sa victoire à Justin Trudeau, là.
Tu sais. Tu veux dire qu'un gars comme lui qui gagnait par 1000 votes se disait je dois ma victoire à la popularité personnelle de Justin Trudeau. Alors maintenant, Justin Trudeau est moins populaire que son parti dans les sondages. Il est moins populaire que son parti. Monsieur Duclos va chercher une majorité plus forte dans son comté. Donc, il se dit, ben là, les gens, ils votent pour moi et mon parti. C'est plus juste l'amour de Justin Trudeau. Donc, ça change la dynamique. Mais malgré ça...
Ça change la dynamique. Puis, il y a beaucoup de... Alors, Monsieur Trudeau, Tu sais, moi, je pense qu'il y a un ménage qui s'impose au Parti libéral, là. Assez sérieux. Il y a un ménage de un, s'ils veulent réussir à continuer à gagner, il y a un ménage idéologique, un ménage stratégique et un ménage de leadership autour du premier ministre, c'est sûr, là. Parce que le fait que M. Trudeau ait pensé que c'était une bonne idée d'aller se présenter hier sur une scène à Montréal et de dire aux Canadiens, vous m'avez donné un mandat clair, là, faut vraiment habiter sur une autre planète, là. Il n'y a pas un gouvernement au Canada qui a jamais été élu avec 33% des votes, là.
Ouais. Parlons de François Legault. Aujourd'hui, il voulait revenir rapidement sur le fait qu'il avait appelé M. Trudeau, disant que bon, il y avait des différences. Ça n'a peut-être pas été l'appel le plus jojo des dernières années. Est-ce que ça part mal pour les relations entre le Québec et le fédéral?
Oui. Il n'y a plus de confiance possible, là. Je veux dire, le gouvernement Trudeau a tout fait que M. Legault voulait lui a donné toute la marge de manœuvre et etc. Et il n'y a pas eu la délicatesse de ne pas leur rentrer dedans en campagne électorale, là. Et pas qu'ils sortent une fois en disant que c'était des partis centralisateurs le jour où il a sorti sa liste de demandes. Ça va, tu sais. Je pense qu'ils s'y attendaient, ils connaissent. Mais qu'ils reviennent à la charge, qu'ils refassent un enjeu, qu'ils se mettent à tirer à boulet rouge sur eux. Il y a un lien de confiance qui s'est cassé irrémédiablement.
Mais ils devaient le savoir. Monsieur... C'était quand même le scénario le plus probable.
Non. Au contraire, là. Les libéraux du Québec, là. Ceux qui avaient livré la marchandise pour François Legault, les Mélanie Joly, Pablo Rodriguez, François-Philippe Champagne, au contraire. Eux, je suis convaincu qu'ils disaient aux partis, aux gens à Ottawa, aux gens de l'establishment libéral. Ça va bien aller. François, il nous a dit, là, il va rester tranquille, il sortira pas, il va faire ses demandes, il va peut-être faire un petit commentaire, mais, tu sais, il s'en mêlera pas, comme.
Non, mais Legault devait s'attendre à ce que, je veux dire, il y avait des bonnes chances que Trudeau gagne minoritaire, donc là, ils doivent, c'est pas une grande surprise.
Mais quand il a fait sa première sortie, Trudeau, ça allait très mal, ses affaires, il était en voie de perdre, là. Tu sais, il faut se mettre dans ce contexte-là. Puis je pense qu'il a été doublement malhabile aujourd'hui. Bon, là, il a marché sur la ceinture. Il nous dit que finalement, lui était en faveur de l'équipe bleue et que l'équipe bleue a gagné. Ça, c'est conservateur et bloc.
Additionné, oui.
Mais quand il se met à dire, ben là, si Mélanie Joly n'est pas contente, tant pis, c'est de personnaliser le débat comme ça. C'est jamais élégant, moi, je trouve, en politique, puis c'est pas nécessaire. Puis il se prive d'une alliée parce que c'est la personne qui a livré, qui a sauvé le Québec pour M. Legault, là, ben pour M. Trudeau, c'est Mélanie Joly, tu sais.
Non, c'est disons pour François Legault, ça aura pas été, ça sera pas dans le bilan des bonnes interventions. Je continue moi à dire que il y avait quelque chose d'anormal à voir les partis fédéraux prendre autant d'engagement dans les juridictions des provinces. Là, ça, c'était pas normal et ça pouvait être dit, mais dans la façon de le formuler, à mon avis, même je suis même pas certain que ce point de presse là, quand il a quitté son bureau là, en direction du Lutrin. Je suis même pas certain qu'il avait prévu en dire autant. Moi, je pense qu'il y a un bout, il a pensé à haute voix, il avait le goût de dire ça. Peut-être qu'il aime bien M. O'Toole sur un plan personnel. Ils se sont rencontrés une couple de fois. Peut-être qu'il s'est dit, tiens, il a besoin d'un coup de main. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que sa pensée a dépassé ou sa langue a dépassé ce que stratégiquement, lui et son entourage avaient décidé de dire. Là, il y a plusieurs caquistes dans le caucus, ceux qui ont été surpris, là. Beaucoup d'élus de la CAQ qui étaient pas au courant de cette sortie-là, c'était pas planifié, et qui ont été drôlement surpris d'entendre leur chef, dans certains cas, aux nouvelles. Merci beaucoup, Emmanuel.
Au revoir.
Bye-bye.